Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au vendredi 18 octobre 2024, il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Et nous sommes au cinquième numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde, Géraud Dakoutia est à la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiko, Radio La Paix à Takpami, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapanwela. Vous comprenez que cette émission Club de la Presse est suivie partout au Togo. Nous ne sommes pas suivis qu'au Togo, mais dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre page YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Comme de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes, Firmette Kouagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Sans cette grâce, on ne serait pas ici. Nous ne pourrons que nous rendre grâce, honneur et gloire pour la protection qu'il nous assure.
D'accord, c'est l'essentiel. Jamais Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Merci pour l'invitation.
J'espère que tu vas bien.
Grâce à Dieu, ça va.
D'accord. Nous sommes avec aussi un ami de la presse hein, qui est juriste, c'est Gabin Adjaro. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et, auditeurs de Canal FM. C'est la première fois que je viens dans ce studio, magnifique studio de Canal FM pour débattre de l'actualité politique, sociale et du Togo et partout ailleurs.
D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste et votre cabinet, c'est bien sûr Juris Consulting. Et vous êtes là pour débattre bien sûr de l'actualité telle que vous l'avez dit. Ainsi, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous pour l'invitation.
L'autre qui a répondu aussi à notre invitation, c'est Ricardo Aguzu. Ricardo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Canal FM. Merci pour l'invitation.
J'espère que tu vas bien.
Je vais très bien, je rends grâce à Dieu.
D'accord, vous êtes le président de l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, OPS Afrique, c'est bien ça?
C'est ça.
D'accord, nous allons discuter justement de l'actualité et surtout que vous vous occupez hein, de la santé. Nous allons parler même d'ailleurs de la santé aussi dans cette émission. Alors, mais je voudrais bien sûr qu'on commence cette émission avec cet effondrement hein, qui a eu lieu ce matin d'un immeuble, bien sûr. Et c'est dans le Golfe 7 et c'est le journal Le Neutre. Le journal en ligne, bien sûr, Le Neutre, qui nous informe alors, bien sûr, de cet incident qui s'est produit ce matin. Et là, le mal, c'est que ça a causé même d'ailleurs des dégâts. Et non seulement des dégâts, mais il y a aussi alors de pertes de vie humaines. Et le journal nous informe tout simplement que, alors, selon les informations, la mairie alors du Golfe 7 avait interdit la poursuite alors des travaux de cet immeuble qui vient alors de s'effondrer pour cause alors de permis de construire. Et malheureusement, les travailleurs n'ont pas obtempéré, c'est-à-dire ils ont continué hein, cela. Et le propriétaire alors de cet immeuble qui vivait à l'étranger rentré avec un ami pour constater l'évolution du travail. Et à peine arrivé sur les lieux, et l'immeuble s'est effondré sur lui et son ami. Et selon les premiers bilans provisoires, d'importants dégâts matériels, des blessés évacués à l'hôpital et des morts, dont le propriétaire de l'immeuble et son ami. Et faut-il le préciser, parmi les blessés évacués à l'hôpital se retrouve la femme alors du propriétaire et son enfant. Alors, Richard Aguzu, moi, quand j'ai appris l'information alors ce matin, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. Quand on prend Et on a demandé quand même une cessation ou on a suspendu même les travaux, mais finalement, ceux qui travaillaient sur les lions continuaient par faire ce travail jusqu'à ce que mort ne s'en découle.
Oui, j'ai vu l'information, mais j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait une interdiction formelle des autorités locales. Mais les gens n'ont pas obtempéré, ont continué. Ça veut dire que les gens ont voulu défier ceux qui ont plus d'informations sur la structure et comment il faut construire. Et je crois que cette situation est alarmante. Il faut d'abord déplorer la situation et présenter nos condoléances aux familles et pleurer, tel que vous le dites. On a appris qu'il y a eu des morts et des blessés également. Prier Dieu de venir en aide à ces populations. Mais également, je crois que cette affaire, il faut véritablement agir. L'autorité doit agir pour que de telles situations ne se répètent plus. Parce que nous avons vu dans les mairies, on parle du permis de construire. C'est un concept qui semble nouveau et les gens le négligent. Alors que c'est pour la sécurité de nous-mêmes, nous qui construisons et ceux qui le font. Et les habitants, toute la population autour est victime. J'ai appris même que l'immeuble s'est effondré sur un autre bâtiment. Ça veut dire que la personne devient une victime comme ça, innocente, elle ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est des actes qu'il faut réprimer sérieusement pour qu'aujourd'hui, les situations, ça cesse. Mais également, il faut voir que les mairies, est-ce que, après avoir interdit la construction, en voyant les gens sur les chantiers, qu'est-ce que la mairie a fait? Est-ce qu'il y a des services techniques qui doivent surveiller? Ça ne sert à rien. Quand il y a une loi sans sanction, sans surveillance, ça veut dire que cette loi, mais elle n'existe plus. Donc, c'est de la forme, également la responsabilité de cette mairie engagée. Parce que quand vous interdisez une activité, vous voyez les gens sur les lieux, il faut agir. Donc, nous ne continuons pas à prier que, bon, pour l'instant, que les dégâts ne soient pas plus élevés.
D'accord. Alors, Gabin, c'est vrai que Ricardo l'évoquait tout de suite. Comment se fait-il que la mairie a interdit les travaux, mais les travailleurs continuent cela sur le terrain, tandis qu'il n'y a même pas aussi un service technique qui a remarqué même d'ailleurs la poursuite alors de ces travaux.
Ouais, vous savez que dans nos pays, il y a certaines personnes qui ont la tête un peu dure. Et il me semble que selon les informations que moi j'ai eues, c'est que le propriétaire même de l'immeuble était en voyage. C'est un homme de la diaspora qui a demandé à ce qu'on construise cet immeuble-là pour lui. Vous savez, ce genre d'immeuble, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un chantier qui est ouvert, qui va se terminer au bout d'un an, au bout de deux ans. C'est un immeuble de 5 étages quand même. Ça veut dire que ça a pris assez de temps. Mais moi, j'ai emprunté la voie ce matin. J'étais au niveau de la frontière Togo-Ghana, au CB, et en revenant, c'est là que j'ai constaté que véritablement, il y a un effondrement, ce qui a causé véritablement un embouteillage au niveau de la circulation. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui habitait dans cet immeuble? Parce que vu même l'état, quand tu vois un immeuble qui est bien construit, qui s'effondre par la force des forces de la nature, tu te rends compte si c'est bien construit ou pas. Mais la manière où c'est tombé comme un château de cartes, ça veut dire que toutes les mesures sécuritaires de précaution n'ont pas été prises et que peut-être même, parce qu'on l'a toujours dit aux populations, il faut se dépêcher vers les services compétents pour demander, si vous voulez construire, le permis de construire, c'est très important. Il faudrait que les services techniques de la mairie et même de certains services techniques du ministère de l'urbanisme, parce qu'il s'agit quand même d'un immeuble d'un certain standing, il faut qu'ils vérifient tout. Il faut voir si le sol là est capable de tenir un immeuble de 5 étages et tout ça. Donc, je pense que toutes les mesures n'ont pas été prises et l'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire celui-là qui a construit, le génie civil et encore plus le propriétaire même de l'immeuble paie à son âme parce qu'on dit qu'il est décédé suite à cette chute. Donc je pense que il faut encore exhorter la population parce que les gens pensent que quand on leur dit de s'approcher des services techniques et autres, là, c'est juste pour aller verser de l'argent. Non, c'est pour premièrement notre propre sécurité et aussi pour la sécurité des voisins. Ricardo vient de le dire, l'immeuble est tombé sur d'autres maisons. Ça veut dire que ce sont des victimes collatéraux qui n'ont rien demandé. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui se retrouvent être victimes de l'erreur, de la faute, de la pinglerie de quelqu'un qui ne voulait juste pas faire appel aux services techniques qu'il faut. C'est déplorable, mais on va juste souhaiter une bonne guérison à ceux-là qui, heureusement, sont juste des blessés qui ne sont pas décédés. Et nos pensées les plus attristées à ceux-là qui sont décédés des suites de l'effondrement de cet immeuble.
Alors, Germain, c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre le fait que déjà on prend une décision, on interdit et par après, on ne fait pas le suivi.
Non, est-ce que on va dire qu'on ne fait pas le suivi? Moi, je crois qu'il
Mais si on faisait le suivi,
non, je crois.
Normalement, ça ne devait pas arriver.
Oui, non, je crois quand même qu'il faut féliciter ce maire-là, hein, du Golfe 7, le maire Emile Dikounou, qui a eu le courage, pour l'une des rares fois, j'allais même dire la première fois, de stopper les travaux d'un immeuble. Et la presse en avait beaucoup parlé. Et on est surpris aujourd'hui qu'on nous dise que cet immeuble a été achevé et que voilà qu'il s'effondre. C'est-à-dire qu'à l'époque, certains même se disaient, mais le maire, est-ce qu'il n'exagère pas? Mais quand on a vu l'immeuble, la photo, on s'est dit, mais ça, c'est un immeuble qui représente effectivement un danger. Et c'était sur plainte des voisins qui voyaient la bâtisse, qui se disaient, mais ça risque de nous écraser un jour. Alors, c'est vrai, on peut dire, le maire n'a pas suivi, mais le maire a fait son travail. Il l'a interdit, il a même demandé qu'on renforce ce bâtiment, s'il faut le continuer. Et donc, vous savez, déjà, le permis de construire aujourd'hui, c'est difficile. Vous allez voir les mairies qui écrivent souvent stop, cesser les travaux, défaut de permis de construire. Mais les gens continuent. Parfois, les agents de mairies viennent ramasser même les outils de travail sur les chantiers. Moi, j'en ai vu dans mon quartier. Et les gens se disent, mais c'est illégal, est-ce que la mairie peut venir ramasser? Donc, ouais, les maires aussi sont un peu limités. Après, il y a un ministère de l'urbanisme aussi qui est là. Il y a Mme Tigan qui vient de prendre donc ce ministère. On espère qu'elle va vraiment prendre le taureau par les coms. Et puis, le vrai souci aujourd'hui, c'est que vous avez les moyens pour monter un immeuble de 5 étages et vous ne faites pas recours au service d'un architecte. Et même pour avoir le permis de construire, il faut même passer par un architecte. C'est lui qui vous facilite l'obtention de ce permis-là. Et donc, généralement, les populations ne vont même pas vers les architectes, se disant qu'ils sont un peu trop chers, et vont vers des maçons ou des tâcherons qui font avec le budget du client. Ils s'en foutent des questions de sécurité. Vous allez voir, là, il faut mettre un fer de 14, 16 et plus. On vous met un fer de 8 ou de 10. Ils s'en foutent, ils montent, après ils font les dalles. Et donc, je crois que on ne va pas accuser la mairie qui a eu au moins, de façon historique, moi je vais le dire, le courage de stopper ces travaux-là. Mais il y a l'entêtement du propriétaire qu'il faut relever. C'est vrai qu'il n'est plus à son âme, mais il faut aussi respecter les mesures prises par ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, il n'y a pas que lui, il y a eu des victimes collatérales, des gens qui ont eu la malchance d'être le voisin de cet immeuble-là. Et donc, il faut, je crois que ce maire, il faut plutôt saluer. Maintenant, c'est vrai, on pouvait avoir une sorte de suivi, mais peut-être à ce niveau, il faut que les maires se dotent d'un service qui suit. Mais je ne pense pas qu'ils ont d'autres moyens. Il faut peut-être que la loi leur permette des mesures coercitives, même qui peuvent leur permettre de démolir par moment des bâtiments qu'on estime dangereux de façon avérée. Donc aujourd'hui, le drame est arrivé. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu la photo de cet immeuble. Je me dis, mais ça, c'est quelle architecture? Donc je me dis, est-ce que ça va tenir, même quand vous n'êtes pas un spécialiste? Vous savez que ça ne va pas tenir, et malheureusement, très peu de temps après, ce n'est pas le cas de cet immeuble au grand marché de Daoulato qui s'était effondré, lui au moins il avait vécu des dizaines d'années donc avant, mais celui-là, peu de temps après, je ne pense même pas qu'il est totalement fini, et voilà qu'il s'effondre, et donc c'est la responsabilité de tous ces acteurs-là, à commencer par les propriétaires, qui n'ont pas les moyens qu'il faut, mais qui veulent avoir des immeubles de leur rêve. Ensuite, ces tâcherons, ces maçons qui ont la prétention aussi, parce qu'ils parfois ils ont travaillé avec certains architectes, de se dire qu'ils peuvent le faire, et ils assurent les clients. Mais après, il y a aussi les architectes. Je pense qu'il faut qu'ils rendent leur métier plus accessible, qu'ils se rapprochent un peu plus des foyers qui ont de petites bourses. Moi, j'ai vu un architecte qui me disait, mais on peut vous faire un plan à 200, 300 000. Je dis non, c'est pas possible.
Il dit, c'est vrai. Parce que les gens imaginent qu'il faut avoir des millions pour pouvoir aller solliciter.
Tout à fait.
Voilà, le service d'un architecte. Il faut que l'ONAT, l'Ordre national des architectes du Togo, avec le président Limazier, que nous-mêmes, on a approché au niveau du CONAP pour nous offrir une formation, en tout cas sur l'architecture. Et je crois quand même que ça arrive bien. Ici, publiquement, on le relance sur ce projet-là qu'on a introduit depuis pratiquement un an. On espère qu'il va solliciter la presse aussi pour aider à communiquer énormément sur les architectes, leur rôle, même dans le permis de, pour avoir le permis de construire. Vous devez passer par un architecte et les gens ne le savent pas. Donc, je crois que l'ONAT, si le président Limazier et les autres architectes membres du bureau nous écoutent, les médias voudraient vraiment travailler avec eux sur ce projet-là et sensibiliser
davantage. Merci d'avoir lancé cet appel à formation à l'égard alors de l'ONAT. Je pense quand même que le président est à l'écoute et il vous a écouté. Et alors, Firmin, est-ce que finalement, ceux qui sont décédés dans cette affaire n'ont pas été victimes de l'incivisme?
Ils ont été victimes de l'incivisme. En fait, ce qui se passe est très simple. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle des architectes et de peut-être vous avez parlé entre-temps du civisme. Moi, je ne voudrais pas aborder ces deux volets. Le jeu est simple. Le jeu est simple. C'est à deux niveaux. Tout d'abord, il y a un mépris total vis-à-vis des règles citoyennes, des règles civiques. Et la deuxième chose, le deuxième volet, c'est de la négligence pure et dure. C'est-à-dire, tout d'abord, on a cru que bon, on nous interdit, on peut construire, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, alors que ce sont les règles qui régissent notre pays et on se doit de les respecter. C'est pour cela que nous, arrivés à un moment donné, on a compris que la meilleure des choses, c'est de sensibiliser sur les rappeler valeurs civiques. Parce que quand on parle de la citoyenneté, c'est moi, on a toujours dit, c'est trois choses. Il y a le civisme, la civilité et la civilité. Le civisme, c'est le respect des règles de la République. On est tenu de respecter les règles de la République. C'est l'État. On est contraint. Quand vous voulez faire quelque chose, l'État vous dit ne le faites pas, ne le faites pas. Sinon, vous en subirez les conséquences. On a toujours l'habitude de nous dire que c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. L'État peut passer partout. Si vous interdit de faire ceci, et vous le faites, l'État peut recourir à tous les moyens pour vous y contraindre.
Mais dans ce cas, comment se fait-il que l'État n'a pas vraiment eu recours à ces moyens, à tous les moyens nécessaires pour interdire cela?
Non, peut-être au moment. Les personnes savent qu'on a interdit, on a joué le rôle, l'État a joué le rôle qui était le sien, interdit. Et maintenant, vous poursuivez, on vous interdit. Peut-être que dans la police aussi, peut-être le maire serait passé par d'autres moyens pour les rappeler à l'ordre, même jusqu'à présent. Et on a vu la conséquence qui est vraiment fâcheuse. Les gens sont morts. C'est de la négligence, surtout de la part du propriétaire. C'est le propriétaire qui va dire, on nous interdit de poursuivre, et puis on stoppe, et puis c'est fini. Ce n'est pas une question d'architecte, tout ça, mais l'architecte peut-être va venir vous dire, non, on peut y arriver, mais c'est à vous de décider.
Je ne crois même pas qu'il y ait un architecte sur ce
projet. Est-ce que sur le projet, il y a eu un architecte?
Au propriétaire, c'est le propriétaire. C'est pour cela, en tout cas, ça nous renforce dans ce que nous faisons en partageant les petits articles qui contiennent nos textes pour sensibiliser régulièrement sur les valeurs citoyennes. Cette semaine aussi, comme vous le savez, nous parlons aussi de la Constitution de la 5e République. Nous avons partagé l'article 37, alinéa 1. Dans la semaine à venir, on va élargir à tous les autres domaines.
D'accord. Alors, oui, mais Ricardo, c'est vrai que l'autre suspension, c'est vrai, nous avons lu le communiqué hier, c'est par rapport au service Yango, ce service de transport qui est là. Il y a le ministre quand même qui a fait sortir un communiqué pour suspendre les travaux, alors même d'ailleurs, ou les activités alors de ce service. Mais finalement, il semble que déjà la société a commencé même pas à fonctionner au Togo sans avoir respecté même d'ailleurs les règles légales pour l'implantation. Mais moi, je me demande, ou la question à vous, c'est de savoir comment se fait-il qu'on peut laisser une société qui vient s'implanter et sans remplir les conditions légales jusqu'à ce que ça n'évolue par après. On lui dit, mais non, vous ne pouvez plus continuer.
Oui, c'est de ça que nous disons. Parfois, les responsabilités sont partagées. Et puis, j'ai même envie de revenir en arrière sur le sujet que nous étions en train de débattre, sur l'immeuble. Tout ce que nous disons ici, c'est pour l'avenir. si nous n'accusons pas la mairie, ben nous disons que quand vous prenez un acte d'interdiction, il faut surveiller pour que l'acte soit respecté. Sinon, vous n'allez pas vous justifier parce qu'on a pris la mesure, donc c'est fini. Je dis bien, moi je suis conseil municipal, nous savons comment les gens s'entêtent et les services techniques sont appelés à aider le maire à surveiller les chantiers interdits. Et il faut le faire. Et aujourd'hui, les communes sont informées de ce que nous sommes en train de... Ils doivent prendre des dispositions. On ne peut pas interdire les laisser. C'est la même chose ce qui vient de se passer. Moi, hier, j'ai vu ce véhicule et à peine, je vois le communiqué. Et je m'interroge. Mais comment se fait-il qu'on peut s'introduire dans un État? Il a bien dit, l'État, c'est un tout. Et se permettre de commencer une activité qui doit être réglementée, c'est la vie des citoyens, la circulation. Et l'autorité ne sait pas. Et après, maintenant, on se rend compte qu'il n'est pas en conformité avec la loi, on l'interdit. Moi, je pense que cette interdiction, j'ai vu les interprétations un peu partout. Mais pour moi, si tel est que la société n'est pas en règle par rapport au texte de l'État, mais il faut l'interdire. Mais maintenant, la question de savoir l'État était où, comment ça s'est passé, on connaît également les difficultés. L'essentiel, c'est qu'on a interdit. Maintenant, c'est de se pouvoir, est-ce que réellement la société a stoppé ses activités? Sinon, ça va, ça risque de se reproduire comme ce qui s'est passé pour lui-même. On dira que l'État a interdit. Et alors, les victimes, c'est qui? L'État est appelé à protéger les citoyens. Même si tu ne veux pas, on te protège. Parce que quand ça pète, on dira que c'est l'État qui est faillible. Voilà.
D'accord. Oui, mais Gabin, sur ce point, puisque vous êtes juriste, comment se fait-il que déjà, quand on prend une société hein, de ce genre, et dans le communiqué, il semble même d'ailleurs que la société a profité même d'ailleurs de la digitalisation hein, pour faire ses activités à l'insu même d'ailleurs de l'État?
Oui, Pascal, avant de revenir à ta question, j'aimerais lever un tout petit peu l'équivoque par rapport à cet immeuble. Parce que faut pas jeter de l'anathème sur la mairie. L'immeuble était déjà à ce niveau avant que la mairie n'interdise la poursuite des travaux. L'immeuble, selon mes informations de sources très sûres, l'immeuble était déjà à ce niveau-là. C'est grâce à l'interdiction de la mairie que les travaux n'ont pas pu se poursuivre. L'immeuble était là depuis près de 4 ans déjà. Vous voyez un peu? Peut-être que les dernières pluies ont eu... n'a plus continué. Okay. Depuis 4 ans, la mairie a pu interdire la poursuite des travaux hein, de cet immeuble-là. Donc, on ne peut pas jeter de l'anathème sur la mairie et je pense que les mesures sécuritaires aussi ont été prises pour que les travaux ne se poursuivent pas sur l'immeuble en question. D'accord. Maintenant, pour le cas de Yango, vous savez, on l'a toujours dit, le Togo, c'est un pays dans lequel c'est très facile d'arriver à créer une entreprise. Parce qu'on a facilité les choses pour les entrepreneurs, pour permettre aux jeunes d'arriver à créer leur entreprise et de vendre leurs produits. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, quand ils rentrent au Togo, tellement c'est facile pour eux qu'ils se disent, ils se donnent une certaine lassitude dans la création des entreprises et ils commencent par outrepasser certaines règles. J'ai eu à travailler avec certains Ivoiriens qui sont venus ici s'installer, ils ont créé leurs entreprises, ils commencent à travailler ici et je les ai conseillés. C'est vrai, ce sont des entrepreneurs, ils veulent véritablement arriver à gagner beaucoup plus d'argent le plus rapidement possible, mais il faut suivre les règles du pays. Les règles, c'est tellement facile au Togo, il faut juste suivre la procédure. Au bout de quelques semaines, tu as tous tes papiers et tu peux commencer par exercer. Mais le cas de Yango, depuis hier, moi j'ai vu le communiqué, je suis rentré quand même dans les informations et je me suis rendu compte que cette entreprise n'a pas eu à suivre la procédure normale. Parce que quoi? Ce n'est pas la seule entreprise de transport qui est au Togo. Je ne veux pas citer les noms pour leur faire de la publicité, mais il y en a plein. Ce qui veut dire que Yango n'a pas eu à respecter les normes. Il faut acheter un certain nombre de véhicules, il faut recruter un certain nombre de personnes, les déclarer au niveau de la CNS, parce que quand tu amènes une entreprise au Togo, il faut que cela profite aussi aux Togolais. Tu vas recruter des gens au Togo, il va falloir que ces gens-là soient protégés socialement. Même, il y a le cas de l'AMU aujourd'hui. Toutes ces règles-là n'ont pas été respectées par l'entreprise Yango.
Et l'État a laissé faire jusqu'à présent, c'est ça?
Oui, vous savez, l'État, c'est un tout. Il faut prendre les mesures, prendre toutes les informations possibles avant de prendre des mesures. Et l'État ne se lève pas du jour au lendemain. D'autant plus qu'il y a des Togolais
qui ont commencé déjà par travailler dans l'entreprise. Donc, on ne va pas se lever du jour au lendemain, prendre des décisions comme quoi arrêter de travailler parce que tant. Il faut prendre des mesures de redressement pour voir si l'entreprise est quand même de bonne foi pour se conformer aux règles existantes. Mais si l'entreprise n'est pas de bonne foi, mais l'extrême, c'est de suspendre ses activités. Quand l'entreprise va se conformer aux normes juridiques en place, alors là, il peut continuer par opérer. Mais le cas de Yango, je l'ai déjà dit, ils n'ont pas su respecter ces règlements-là. Et qu'est-ce qui a causé tout ça? C'est qu'il y a d'autres entreprises de transport qui sont là. Et comme on se sert des applications pour les commandes, il y a des chauffeurs d'une entreprise, peut-être je vais dire X, qui conduit déjà un véhicule acheté par X. Mais cette personne se sert de l'application de Yango pour recevoir des commandes des clients. Vous voyez un peu, peut-être toi tu achètes un véhicule pour ton entreprise, tu recrutes ton chauffeur que tu as déclaré à la CNSS et partout ailleurs pour qu'il puisse être bien protégé. Et moi aussi, j'achète, ou bien j'ai une entreprise, mais je n'ai pas de véhicule, mais j'utilise et ton chauffeur et ton véhicule. C'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Et dans aucune règle entrepreneuriale, cela n'existe. Je pense que l'État a su faire ce qu'il faut pour que ceux-là qui ont créé des entreprises de transport puissent être protégés, mais aussi pour que les Togolais qui travaillent dans cette entreprise-là puissent être aussi protégés.
D'accord. Alors, Jamin, c'est vrai que quand l'information est tombée hier, par rapport même d'ailleurs à cette suspension d'activité de Yango, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a d'aucuns qui pensaient plutôt alors aux concurrents de Yango qui seraient peut-être à la base de cela, parce qu'on a appris quand même que Yango proposait même d'ailleurs ses services au rabais par rapport au prix même d'ailleurs de ses concurrents. Alors, et finalement, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de ce genre?
Bon, là, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence est libre. Et maintenant, il faut être légalement constitué. C'est un peu plus facile quand on est dans l'illégal de concurrencer ceux qui respectent les lois qui sont plus contraignantes et qui ont du mal à faire beaucoup de bénéfices. Si vous n'avez pas beaucoup de charges, c'est facile pour vous de casser le prix comme vous voulez, puisqu'en réalité, vous n'êtes pas installé, les formalités ne vous imposent pas de charges. Donc, c'est possible que, sous cet angle-là, Yango qui arrive, qui n'est pas sous une certaine législation, donc puisse faire des tarifs assez extraordinaires. Les gens se disent, mais voilà, lui, il est mieux que les autres. Tout simplement parce qu'il n'a aucune obligation en réalité. Donc, c'est quand l'interdiction est arrivée qu'on comprend mieux, mais c'est vrai aussi que Yango est dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et tout ça, où il est bien implanté. Mais je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, il fonctionne aussi de la même manière, s'il s'est installé de façon informelle et a commencé ses activités, mais ça m'étonnerait. Donc, quand vous êtes une société qui veut s'étendre sur plusieurs pays et vous arrivez au Togo, il faut vous conformer aux lois, c'est la première règle. Après, s'il y a une plainte des autres, ils n'ont pas tort. Parce que la dernière fois, quand ce genre de commerce est arrivé, je discutais une fois avec l'aide responsable de la toute première société qui avait mis en place ce système à la Uber. Et je dis, mais voilà, il y a tel qui vient d'arriver, tel concurrent qui a cassé un peu les prix. Je ne parlais pas de Yango, hein, à l'époque, Yango n'était pas là. Et me disait ceci, non, je ne crois pas qu'ils vont tenir. Que quand vous voyez les charges et le prix qu'ils font, ils ne pourront pas tenir. Vous allez voir qu'ils vont revenir. Donc, il me le disait, mais je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, avec cette affaire de Yango, je comprends quand même un peu mieux que même s'il y a une plainte de ses concurrents-là, c'est tout à fait normal parce que logiquement, ça va être difficile de tenir les prix que pratique Yango, même à Abidjan, ils sont là. Moi, je n'ai pas vu ce genre de tarifs là-bas. Donc, ça veut dire que le fait de ne pas être sous des obligations légales, de travailler de façon informelle, permet de proposer n'importe quel prix et donc de ravir la vedette peut-être aux concurrents. Maintenant, il faut qu'il, s'il veut s'installer au Togo, si Yango veut s'installer, il faut juste qu'il se soumette donc aux lois en vigueur dans le domaine du transport. Et ça a été facile quand même parce que ici on parle de digital. Vous pouvez même créer cette entreprise sans avoir une seule voiture. sans avoir même un bureau, sans avoir du personnel.
Personnel.
Vous avez juste votre téléphone. Vous avez créé l'entreprise. Les gens travaillent, vous prenez votre part, ils prennent leur part. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est assez facile de s'enrichir parfois, sans trop d'efforts, sans se soumettre à des lois. Heureusement que le gouvernement a pris sa disposition. Maintenant, si Yango veut continuer à travailler au Togo, donc il se soumet tout simplement aux lois, qu'il combatte avec les mêmes armes que ses concurrents, qu'il soit dans les mêmes conditions. Et s'il est toujours capable de faire mieux, je crois que c'est avec beaucoup de plaisir que les clients...
Firmin, c'est vrai que quand on prend cette entreprise qui déjà a commencé par faire ses activités déjà au Togo, sans avoir reçu en quelque sorte soit un récépissé ou du moins un agrément, voilà comme on le dit en thème alors d'entreprise, mais est-ce que ça n'a pas été très facile ça?
Oui, ça a été très facile. Vous savez, je pense que Gabé a déjà dit quelque chose. Vous savez, avant que l'État n'intervienne sur un sujet, l'État se donne la peine de prendre du temps pour étudier et avoir toutes les informations, pour ne pas commettre des erreurs. Vous imaginez qu'une société qui vient s'installer, qui commence déjà pas en plein les Togolais. Et vous imaginez, c'est déjà un grand pain. Donc, du jour se lever au lendemain, et pour tout arrêter, ça fait du mal, parce que vous avez dit que vous créez des chômeurs. De la façon la plus circonstanciée. Alors, qu'est-ce que l'État fait? L'État prend du temps. On ne peut rien reprocher à l'État tout de suite, puisque ça n'a pas encore plus 2 ans ou 3 ans, 4 ans. Ça fait déjà quelques mois que nous observons cela sur le terrain. Mais la meilleure des choses, c'est que ces entreprises, Gabin, je suis d'accord avec ce point, qu'elles fassent un effort pour respecter les règles qui régissent le domaine, le secteur dans lequel elles veulent investir. Alors, parlant du transport, moi, j'ai quelques lois. Je vais juste cesser en 2 secondes. Et la loi d'orientation des transports du 27 décembre 2022. Si vous voulez investir dans le transport, c'est cette loi-là que vous devez respecter. Il y a aussi des textes d'application, donc des décrets, par exemple, décrets fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire ou d'auxiliaire de transport routier et d'exercice des activités de transport routier. Ça, c'est un décret du 9 juin 2023. Il y a aussi ces décrets portant réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de taxi, de type taxi, taxi moto et tricycle affecté au transport public. C'est du 20 octobre 2023. Donc, il faut respecter ces tests-là si vous voulez investir dans le transport.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet pour s'intéresser à un autre sujet. Intéressons-nous à la santé. Ricardo, je sais que ce sujet vous intéresse bien. Depuis le début même d'ailleurs de la semaine, nous avons commencé par parler de ce trafic de poches de sang qui se déroule même d'ailleurs dans certaines formations hospitalières. Et finalement, il y a le ministre, déjà le mardi, il y a le ministre de la Santé, professeur Tim Daré, qui a fait sortir un communiqué pour interpeller, et non seulement interpeller, mais mettre en garde tous les contrevenants alors de ces faits ou ces gens-là qui s'adonnent au trafic alors de poches de sang dans les hôpitaux. Et Ricardo, vous êtes bien au courant alors de ce phénomène alors dans les hôpitaux?
Oui, bien sûr, c'est nous qui avons saisi le ministre le 3 octobre dernier sur cette situation de trafic de sang, parce que notre association est une association de veille sanitaire qui s'est donnée pour mission de protéger les patients dans les hôpitaux. Et donc, nous avons été informés par un parent qu'un enfant était hospitalisé et on lui a perfusé le sang. Une poche coûtait 15 000 francs. Et donc, la deuxième poche aussi a été demandée à 15 000 francs. Mais pour la troisième poche, le monsieur était obligé de se référer à nous. Nous l'avons dit d'aller au CHR pour s'informer. Donc, au CHR, il se rend compte que l'infirmier qui lui demandait de lui procurer la troisième poche depuis Sokodé est allé lui aussi pour acheter le sang là-bas. Donc, mais c'est un peu curieux. Et là, nous sommes dit qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe très mal. Nous avons approché l'infirmier, nous sommes rendus compte qu'il n'est pas seul, ils sont deux. Mais finalement, ils nous disent que le sang est pris chez une dame qui aurait subi une opération, c'est les restes. Nous demandons à voir le contact de la dame pour vérifier les faits. On n'a pas le contact. Après, on se rend compte qu'il y a un autre Alex Mono qui a acheté le sang également là-bas à 15 000 francs. Après, on apprend que c'est une complicité avec la direction. On nous cite le nom d'une aide laboratoire. Nous avons mené notre enquête auprès d'elle également. Et elle nous dit que oui, elle a le sang et que celui qui vend le sang à Lomé. Et donc, 10 minutes plus tard, elle nous rappelle pour nous livrer le sang. Voilà. Donc, ces faits nous ont touchés pour dire réellement qu'il doit y avoir un réseau de trafic de sang. Et là, avec la directrice, nous avons voulu approfondir nos investigations, mais elle n'a pas été réceptive. Donc, nous avons compris que les accusations qui allaient en son endroit étaient aussi vérifiées et nous avons décidé de saisir le ministre. Mais je rappelle que ce n'est pas que le seul centre, hein, parce que moi-même, j'ai été victime. On m'a vendu deux poches de sang au double du prix. C'est des choses qui nous ont amené à créer cette association. Et puis, quand on était dans la phase d'investigation, tous les infirmiers que nous avons pu contacter pour avoir un peu le prix du sang dans leur formation sanitaire, personne n'était à mesure de nous dire les prix tels fixés comme le ministre l'a fait. C'est vrai qu'on connaissait les prix de façon officielle. Mais la réponse qu'on vous donnera, ça dépend. Quand vous demandez, ça dépend de quoi. On dit, bon, peut-être que c'est celui qui vous vend le sang, c'est lui qui allait acheter. Donc, il va calculer les frais du voyage, il va les inclure dans les frais du voyage. Donc, c'est bien planifié pour que les gens puissent vendre le sang au double du prix, même au triple. La victime qui a acheté le sang à 15 000 francs, il a fait plus de 3-4 formations sanitaires. Parfois, il achète à 15 000, parfois c'est 9 000, parfois c'est 12 000. Ça veut dire que le phénomène est réel. Là, nous avons véritablement salué la sortie du ministre. Je crois que ça va mettre fin à cette pratique qui est extrêmement dangereuse. Ce que je rappelle, c'est que l'information qui nous a choqué, c'est qu'on nous dise que quelqu'un puisse avoir le sang qu'elle garde à son domicile. Là, c'est un peu choquant. C'est ce qui nous a amené à vérifier cette information. Et là, ce que nous n'avons pas pu dire dans notre lettre, lorsque la dame nous a donné rendez-vous pour aller nous livrer le sang, parce qu'un autre nous a dit que c'est sur la route qu'il avait acheté le sang, nous avons saisi la police.
Sur la route ?
Quelqu'un a acheté le sang ? Oui, sur la route, qu'on a vendu le sang. Et donc, c'est ça. C'est dans le même centre. Donc, moi, j'ai saisi personnellement le commissaire de Dakar, puisque c'est dans le village d'Avété, qui m'a mis en contact avec le commissaire de Avété, pour que, au moment où nous allons aller pour prendre le sang, qu'on ne spécule plus. Et que ce soit la main à la poche, qu'on arrête la personne. Malheureusement, la procédure n'a pas évolué. Et peut-être que la dame était alertée, elle est restée inaccessible pendant 3 jours. Donc, nous avons voulu qu'on la saisisse avec les poches du sang et qu'on investigue immédiatement pour voir exactement quelles sont les conditions de conservation de ce sang. Puisque c'est un produit.
Et démanteler tout le réseau.
Nous continuons par insister que des enquêtes soient menées pour démanteler le réseau et puis sanctionner les gens. Parce que si on ne sanctionne pas, je crois que les gens vont continuer.
Alors, Gabin, le sang, c'est un liquide très vital. Et c'est vrai que pour le moment, aucun laboratoire ne fabrique ce liquide. Et c'est par des dons de sang et qu'on arrive même d'ailleurs à acquérir cela. Mais s'il y a des individus, des gens quand même qui sont là et pour faire du trafic alors de ce liquide, est-ce que ce n'est pas grave ça?
C'est au-delà de la gravité. C'est méchant, c'est sorcier. Il faut remercier Ricardo et son association pour le travail de veille citoyenne qu'ils ont eu à faire. Et ce phénomène-là existait depuis fort longtemps, sauf que certaines personnes ont dénoncé, certes, mais il n'y avait pas d'éléments pour véritablement arriver à mettre ça sur la place publique et saisir les autorités, puisque les autorités fonctionnent avec des preuves. Aujourd'hui, il faut encore remercier cette association qui a fait un travail de fond et a eu à saisir le ministère. C'est triste que certaines personnes pensent que c'est dans tous les domaines qu'on fait des affaires. On ne peut pas faire des affaires avec du sang. Les poches de sang, c'est le CNTS. C'est là-bas, voyons, on donne du sang. Moi-même, je suis un donneur. Et quand quelqu'un a besoin du sang, c'est là où il va. Mais les gens se saisissent de cela et font des affaires avec. Le sang, il n'y a même pas de produit de remplacement de sang. Quand on a besoin de donner du sang à quelqu'un, c'est le sang, il n'y a pas d'autre chose qu'on va donner pour remplacer le sang. Déjà qu'on est en train de crier partout, qu'on manque de poches de sang au niveau du CNTS, et les gens se permettent, d'autres personnes, hein, il va aujourd'hui, il n'a pas besoin de sang, certes, mais il y va avec une ordonnance, Dieu seul sait où ils ont trouvé ce genre d'ordonnance-là, ils y vont, ils achètent des poches de sang qu'ils revendent. Dans d'autres cliniques même, on te prescrit du sang, mais on te dit, chez nous, on peut vous le vendre. Ce qui est normalement à 10 000 francs, vous vous retrouvez à l'acheter à 15 000, à 20 000 francs. Mais là, vous ne pouvez rien réclamer parce que tout ce qui vous traverse l'esprit, c'est que
le patient arrive à guérir. Et les gens jouent sur ça pour vous soutirer de l'argent, pour vous escroquer. À un moment donné, je pense que il faut se saisir de ces personnes véreuses-là, les punir d'une manière exemplaire pour que ceux qui seront encore tentés de faire ça sachent que ce sont des choses qui, normalement, ne doivent pas être faites. Ces personnes-là, ça existe dans le système sanitaire, hein, parce qu'avant d'aller acheter une poche de sang, il faut une ordonnance, il faut des papiers. On se lève pas du jour au lendemain. Voilà, moi qui suis ici, je suis un donneur, mais je ne peux pas me lever du jour au lendemain pour me rendre au CNTS pour acheter une poche de sang. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui sont dans le système sanitaire, tels qu'il y a certaines personnes qui vendaient avant des moustiquaires ou autres là. Il y a encore de ces gens-là, véreuses, qui sont en accord ou bien en connivence avec d'autres personnes à l'extérieur du système sanitaire, achètent du sang pour le revendre. Et maintenant, quand Ricardo dit que il y a quelqu'un qui a acheté une poche de sang dans la rue. Quand même. Vous voyez un peu la gravité de la chose. Le sang qui est protégé d'une certaine manière. Je ne sais pas si une fois vous vous êtes rendu au CNTS. Vous voyez la manière dont le sang est protégé. Et pour venir chercher, même pour venir en acheter, il faut apporter une glacière hermétiquement fermée. Mais comment le sang peut se retrouver au coin de la rue comme du boudin? Et puis on vient acheter comme ça.
Ah oui, quand on nous donnait le rendez-vous, c'était pour nous livrer aussi sur la route.
Vous voyez un peu
du sang, hein?
Du sang. C'est tellement grave. À un moment donné, je pense que les citoyens eux-mêmes doivent être conscients. Ceux-là qui achètent le sang au bord de la route, ils doivent être très conscients pour se dire que ça là, quelque chose qui doit être conservé d'une manière, vous l'achetez au bord de la route, ce n'est pas pour acheter la santé de votre frère ou bien de votre soeur qui est, ou bien de votre parent qui est à l'hôpital, mais c'est pour le tuer.
D'accord. Germain, c'est vrai que déjà, il y a Gabin qui évoquait le fait que déjà, ce trafic se fait des fois même avec ou en complicité avec le personnel de la santé, des infirmiers, des médecins et tout. Mais là aussi, c'est encore grave.
Oui, c'est très grave, vous savez, dans le domaine de la santé, ce qui se fait comme business énorme, malgré le serment que certains médecins ont prêté, beaucoup mettent l'argent en avant et en second plan la vie des patients. Et donc, il se passe beaucoup de choses. Et sur cette question, c'est là où Gabin a chuté qui m'intéresse, c'est les conditions dans lesquelles ce sang est revendu. Vous savez que c'est le CNT, le Centre national de transfusion sanguine, qui recueille et stocke le sang, après qu'ils les envoient dans ce qu'on appelle les banques de sang, donc qui sont des endroits dans les formations sanitaires où on les stocke pour les revendre aux patients qui sont en réalité donc hospitalisés dans ces formations-là. Alors, comment ça se fait que ce sang-là quitte ces banques de sang-là et se retrouve dans les mains des individus qui le revendent comme des marchandises ordinaires, alors que tout le travail fait au niveau du CNTS et CN, Centre national de transfusion sanguine. Voilà. Déjà, la qualité du sang qui est recueilli et comment on le conserve. Après, je crois que ce qu'on est en train de vendre en contrebande, c'est un jour on pourra se retrouver avec même du sang des animaux qu'on va mettre aux gens. Non, on rigole, mais
justement,
le jour où les gens vont se dire, mais le sang de tel animal peut être compatible avec celui de l'homme. Oui. Vous allez voir que les individus véreux peut-être vont sortir de ce circuit-là. Et donc, je crois que l'État doit prendre le taureau par à l'école. Le professeur Darry a sorti une note. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut veiller à son application intégrale. Et c'est quand même choquant. C'est vrai que quand vous êtes dans le besoin, vous avez envie de sauver votre parent qui est malade. Quand on vous propose du sang, d'une manière ou d'une autre, vous dites, mais on va prendre.
Parce et peu importe la condition dans laquelle...
On se dit pourvu que ça fasse l'affaire, mais là, vraiment... Et en même temps, il faut aussi dire que si ce trafic aussi est florissant, c'est parce qu'il y a une pénurie aussi au niveau de la collecte du sang. Et il n'y a pas assez de donneurs volontaires comme Gabin, que je salue. Nous sommes nombreux ici à ne pas donner du sang. Et je crois qu'il faut aussi faire ce travail-là de sensibilisation pour que des Togolais donnent de plus en plus leur sang pour sauver, parce qu'il y a aujourd'hui les cas des femmes enceintes, des personnes qu'on opère, des personnes souffrant de certaines maladies assez graves comme le cancer et tout ça, qui ont besoin de recevoir du sang régulièrement. D'accord. Donc, il faut sensibiliser davantage les TWR pour qu'ils aillent donner leur sang pour sauver les autres. C'est peut-être l'occasion aussi de penser à la façon dont ce sang-là est collecté, à la façon dont les gens sont sensibilisés, motivés pour donner beaucoup plus de leur sang pour sauver des vies.
D'accord.
À ce niveau, il y a des réelles difficultés.
Ok, merci Jamais. Alors, Firmin, Ricardo l'a dit tout de suite, il y a des gens qui vont acheter même du sang dans la rue. Mais là, c'est surprenant. Surprenant, mais est-ce que là, il n'y a pas un problème au niveau même de la personne qui va aussi pour acheter le sang dans la rue?
Non, moi, je pense que c'est tout un réseau qui s'est mis en place. Vous savez, ce que je veux dire est très simple. Jusqu'à présent, c'est que c'est l'État seul qui a la légitimité de conserver du sang. L'État ne fait pas du commerce, en fait. C'est-à-dire, l'État a besoin de moyens pour conserver ce sang. Il le mettra à disposition de tout le monde, de tous ceux-là qui se retrouveront dans le besoin. Ça, c'est l'État. Mais si vous êtes un individu et vous voulez faire du commerce, ça veut dire que vous êtes un sorcier. Je le dis, je l'assume, c'est un sorcier. Parce que le sang, quoi, vous ne pouvez pas garder chez vous un produit humain. Et dans le sang, il y a l'âme. Pour tous ceux qui nous écoutent, dans le sang, il y a l'âme. C'est un produit humain. Et quand vous voulez, vous décidez de faire du commerce avec un produit humain, ça veut dire que vous êtes un sorcier. Vous avez besoin de mesurer peut-être la profondeur de ce cas que vous posez. Des sorciers. Donc, ceux-là qui le font, est-ce qu'on peut leur interdire? Oui, on peut chercher à démanteler le réseau, mais peut-être qu'il y en aura toujours. Mais qu'ils sachent qu'ils sont des sorciers. Parce que vous ne pouvez pas garder chez vous un produit humain. L'âme d'une personne qui a, et vous voulez commercer. Vous êtes un vendeur d'âme. C'est ça, en fait. Parce que lisez les grandes écritures, je ne vais pas parler du sang, mais les grandes écritures où on vous décortique ce qu'on appelle le sang. Vous voyez, par exemple, il y a des endroits où il y a régulièrement, mais ceux-là, ceux qui dirigent les États, mais ça, il y a, vous allez voir, un coin, il y a accident. Et quand on vous demande, quand vous interrogez des gens, on dit, parce qu'il y a du sang humain qui se verse là régulièrement, et qu'il faut venir faire des cérémonies, parce qu'il y a l'âme de ceux-là qui font des accidents là, parce que le sang qui se verse là. Alors ceux-là qui transportent, qui font du commerce, ce sont des vendeurs d'âmes. Âme, A, accent, circonflexe, M, E. Vous imaginez, ce sont des vendeurs d'âmes. Et vous vendez les âmes, vous êtes des sorciers. C'est grave ce qu'ils sont en train de faire. Alors, sur ce point, je voudrais que l'État sévisse. Sérieusement, que l'État sévisse.
D'accord. Oui, Ricardo?
Oui, moi, j'ai très bien aimé sa chute. Pour que l'État sévisse, il faut que les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes devenus des gendarmes derrière le personnel soignant. Je crois que M. Poulou l'a dit. Et il n'y a pas que le problème du sang. Hein. La corruption est à un degré très élevé dans le secteur de la santé. Ce n'est pour rien que nous avons créé notre association. Même les produits, on les vend d'une façon ou d'une autre. En 2023, nous avons dénoncé la vente du produit du sérum antivenimeux. Qu'est-ce que les gens faisaient? C'est sur le marché, au niveau des femmes, qu'ils achetaient un produit pour venir perfuser. Et ça dit qu'ils utilisaient comme sérum. Ils le vendent très cher à 60 000 francs. Le flacon, alors que ça se vend par l'État à 14 000 francs. Il y a également l'absentéisme, c'est une forme de corruption. Il y a des gens qui ont créé leur clinique, alors où tu dois être là pour servir et traiter les patients, soigner les gens. En ce moment, il est dans sa clinique. Et donc, les gens sont victimes d'un certain nombre de corruptions dans ce domaine que nous pensons qu'il est temps, comme il vient de chuter, de sanctionner. Sur cette question, nous avons dit on ne va pas aller chercher ailleurs. Le Code de la santé, en son article 560, est clair. Celui qui fait trafic du sang est puni d'une amende de 500 000 à 5 millions,
1 million.
Et de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Donc, le législateur a tout fait. Et l'article 551 interdit systématiquement le trafic du sang.
Mais le législateur a tout fait, mais il faut l'application.
Mais c'est ça, aujourd'hui, nous sommes devant l'évidence. Nous invitons le ministre à continuer les enquêtes. Et si vraiment ce que nous avons révélé est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on dise que bon, on met les gens en garde pour la prochaine fois. C'est ça l'impunité là qui fait qu'aujourd'hui ça continue. Je crois qu'on doit véritablement sévir. Au-delà du sang aujourd'hui, notre association, nous avons des plaintes chaque jour. Hein. Nous avons des dossiers qui sont au-delà du sang. Ça, je le dis, que nous sortirons. Mais il faut que les gens comprennent que quand on prête le serment pour aller sauver la vie, on doit contribuer à tuer les gens.
Oui, mais on ne peut pas contribuer à tous les... Imaginez, trois poches de sang, ça fait 45 000. Si le parent avait payé les 45 000 francs, et après, peut-être que c'est les 45 000 francs seuls qu'il avait, on prescrit un produit, il ne peut pas acheter. Son enfant va mourir. Qui a tué l'enfant? Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas lui. Dieu a donné, Dieu a repris là. On doit cesser ça dans nos hôpitaux. Nous lui disons que la responsabilité médicale doit revenir ici dans notre pays. Quand quelqu'un meurt, on doit savoir qu'est-ce qu'il a tué.
D'accord. Alors, oui, Gabin, c'est vrai que c'est toute une boîte à Pandore hein, que Ricardo ouvre par rapport même à la corruption au sein de, du système alors de santé de notre pays. Mais il faudrait quand même que, qu'on arrive à sévir hein, sur ce plan.
Oui, le code de la santé, là, je pense qu'il faut sévir. C'est très important d'arriver à appliquer hein, la loi aux personnes négligentes et puis un corps aussi sérieux que le corps médical. On avait soutenu hein, les revendications de ce corps-là depuis fort longtemps, le Saint-Fort avec leurs revendications et tout. On les avait soutenus parce qu'on s'est dit que bon, on ne peut pas être dans ce corps-là et puis être les parents pauvres quand même d'une meilleure condition de vie. Donc on les a soutenus. Il va falloir qu'à un moment donné, eux aussi nous rendent service. Ils ont prêté un serment d'Hippocrate. La moindre des choses, c'est d'arriver à mettre la vie de l'humain au-devant de toute chose. Et on ne peut pas, aujourd'hui, le Togolais, même le plus pauvre, quand il tombe malade, ben, il n'a même pas envie d'aller à l'hôpital, parce que déjà, l'accueil, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le traitement qu'on réserve aux patients, ce n'est véritablement ça. Il va falloir qu'on le dise. Et ce combat-là, moi, le dénonce déjà, mais ça doit commencer même au sein du Saint-Fort. Parce qu'avant de réclamer quelque chose, il va falloir que toi-même, tu sois irréprochable. Au moins à 99 ou 190%, que tu sois irréprochable dans ta fonction. Que tu assumes bien ta fonction. Parce qu'au moins, on t'a donné les moyens de travailler. Même si il y a des manquements au niveau de l'État, il y a quelques moyens qu'on t'a donné de travailler. Les moyens qu'on t'a donné là, il faut les utiliser avant qu'on nous dise que vraiment, il y a manquement. Mais si toi, tu mets juste l'argent devant, il y a des gens, quand les patients viennent à l'hôpital, la première chose qu'ils demandent, ben, où est le parent qui l'a amené, l'argent, tout, alors que la personne est en train de souffrir sur le brancard. C'est assez compliqué. Parfois, c'est ici que j'aimerais remercier quand même les sapeurs-pompiers qui font un gros travail. Parfois, ils amènent les malades à l'hôpital, ils font le nécessaire au niveau de en le transportant pour que bon ce patient-là ne succombe pas. Mais arrivé à l'hôpital, ben, les médecins autres là ne font pas le nécessaire pour garder la personne en vie. Donc, ce qui fait que certaines personnes disent que non, la personne a eu un accident, on est venu le récupérer tard et tout de tout. Mais en réalité, ceux-là qui l'ont tué à la fin, ce sont les médecins. Ils n'ont pas su faire ce qu'il faut faire.
D'accord. Alors, Jamais, est-ce que vous comprenez que nous avons un code de la santé qui existe et qui arrive à interdire un certain nombre de choses, notamment cette question même de corruption, de trafic même de sang, mais allez, on n'applique pas.
Oui, je crois que nos codes sont les lois les plus inconnues dans nos milieux. Grâce à l'ONG M-Afrique, nous avons eu, il y a quelques années, à découvrir le code de la santé lors d'une formation à Palimé. Nous sommes rendus compte que 95% de ce code n'est même pas respecté. Ça dit qu'il y a des choses qui se font, qui sont toutes sous le coup de la loi, sur le plan santé. Les députés ont fait un travail. Et ce travail n'est pas connu, les lois existent. Peut-être qu'il faut des associations pour faire la promotion, pour renseigner la sensibilisation sur les lois. Vous voyez déjà ce code, et là, tout à l'heure, la disposition que Ricardo vient de citer. Mais si quelqu'un qui vous vend du sang à bord de la route savait qu'il peut payer au moins 600 000 euros, se retrouver à faire 3 ans de prison, il ne le ferait pas. On a un code, le code de la route, par exemple. J'ai eu la chance une fois à l'époque de rencontrer un officier qui me donne un exemplaire du code. Je vois des choses extraordinaires. Vous brûlez un feu rouge, vous conduisez en tel état, mais c'est des sanctions très lourdes.
Il est dit que nous avons des motesses
qui ne sont pas appliquées, peut-être parfois qui ne sont pas applicables, parce que vous vous rendez compte que si on devait les appliquer, beaucoup de personnes se retrouveraient même en prison. Et donc, est-ce que les députés ne peuvent pas, communiquer un peu plus, parce qu'il ne faut pas forcément aussi faire des lois en se calquant sur ce qui se fait dans les autres pays, mais faire des lois qu'on peut effectivement appliquer. C'est pour ça que la justice, parfois même les agents qui sont chargés de l'ordre, ils n'appliquent pas ces lois-là. Et donc, on en parlait de cet immeuble-là tout à l'heure, hein, peut-être si vous fouillez bien quelque part dans le code de l'urbanisme, vous pouvez trouver un article qui réprime le refus hein, d'avoir un permis de construire ou même de ne pas obtempérer quand l'autorité locale vous demande d'arrêter des travaux. Donc, il y a ces lois-là. Et peut-être que nous sommes dans la 5e République, il va falloir que les députés trouvent un moyen, parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais je pense qu'aujourd'hui, cet adage-là, il faut le revoir. On dit que
tu as ces caduques ?
Oui, je pense. D'accord. Parce qu'il y a tellement de lois. Le citoyen, on annonce telle loi a été votée. Et après, même l'essence, même le contenu, on ne connaît pas. Donc peut-être qu'il va falloir aussi créer des associations. Et comme l'a fait Ricardo dans ce domaine-là, d'autres associations qui permettent de temps en temps d'attirer l'attention de nos populations sur des petites choses ou parfois des choses beaucoup plus graves que nous commettons, nous faisons sans savoir que ça passe forcément sous le coup de la loi.
Merci beaucoup, Germain. Nous allons nous intéresser maintenant à la politique. On va dire quelques mots en politique avant de clôturer cette émission et donner la parole aussi aux auditeurs qui s'impatientent à entrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Alors, en matière de politique, il y a déjà... On parle un peu de cette agression hein, du 29 septembre dernier au siège de la CDPA et au dernier développement. Lors de cette agression, il y a le journal des Guadians qui écrit « Agression barbare du 29 septembre à Lomé. La DMP exige la démission de deux ministres et de la présidente du Parlement de la CEDEAO ». Alors, on en avait parlé dans la semaine et il y a le ministre de la Sécurité et également le ministre de la administration territoriale et aussi la présidente alors du Parlement de la CEDEAO. Il y a la DMP qui demande la démission alors de toutes ces personnalités. Alors, déjà, est-ce que vous avez l'impression quand même que ça pourrait se faire?
Non, moi, il y a une chose qui m'intéresse. Par exemple, quand on demande la démission de la présidente de la CEDEAO, et puis c'est la DMP, quand on voit la DMP, il y a la CDPA. Vous savez, la CDPA, c'est un parti que moi je respecte beaucoup, parce qu'elle s'attache vraiment aux idéaux de la démocratie. Et donc, quand on parle de la démocratie, on parle du respect des tests. Vous imaginez un député de la CEDEAO qui vient sur un territoire, s'accoquiner avec un groupement de partis politiques, sans autorisation, sans avoir eu au préalable une quelconque autorisation de la CEDEAO, et vous soutenez ce député-là. Moi, je condamne l'agression. Mais parlant du respect des tests, ce député-là, lui-même, se lève et vient s'accoquiner avec un parti politique. Dans un pays...
Il est député de la CEDEAO. Le Togo fait partie de la CEDEAO.
Avant quelque intervention que ce soit, vous devez avoir une autorisation préalable au niveau de la CEDEAO. Parce que quand vous venez, ce n'est pas vous-même. Vous êtes député, tout d'abord. Vous représentez la CEDEAO. La deuxième chose, vous représentez votre état d'origine. Et en réalité, avant toute intervention, vous devez avoir une autorisation de la CEDEAO. Parce que celui-là qui dirige cet état-là, il peut s'attaquer à la CEDEAO. Parce que le président de la République peut dire... C'est bien, mais vous n'avez pas donné mandat, vous n'êtes pas venu me voir. Parce qu'avant d'agir dans un pays, pour conclure, quand la CEDEAO veut intervenir dans un pays, quand elle vient, elle peut s'évader, elle va voir le président de la République, elle voit le gouvernement, et il s'arrange, après, elle discute avec la classe politique, c'est-à-dire l'opposition et le parti au pouvoir. C'est comme ça que ça se fait. Alors, aucun député de la CEDEAO ne peut jamais se permettre de venir dans un pays sans autorisation peut-être du pays ou encore moins de l'institution qui le représente. Lorsque ça se fait comme ça, vous violez les règles. Moi, je ne vois pas pourquoi on s'intéresse à ça, ni à ça. C'est ça qui va aider à faire quoi? Moi, c'est-à-dire que les Togolais ont connu de grands hommes et continuent de connaître de grands hommes. Madame Madjamagou, c'est une grande dame politique. Mais on a connu de grands hommes, les Dem Kodjo, les Agouibo, les Gachem Yvedon, les Barké. Même dans nos positions aujourd'hui, on a les gens qui font. C'est ça.
D'accord. Merci. Ricardo, il y a d'abord la DMP qui a demandé, exigé d'abord une enquête internationale. Et au-delà de cette enquête internationale, on demande la démission de certaines personnalités.
Oui, mais mon ami Firmin, je voudrais lui dire, quand il parle de Sanya, mais je crois qu'il faut quand même qu'on respecte la personnalité parce qu'elle est en train de poser des fondations. Quand vous citez les grands hommes, ils ont subi les mêmes choses. Hein. Mais demain, vous parlerez de Sanya. C'est quelque chose qu'il est en train de faire. Ce qu'il fait en parlant des États, des chefs d'État de la CEDEAO, mais c'est une chose remarquable. Même si on ne l'aime pas, il faut avoir le courage de savoir qu'il est en train de faire un bon travail. Maintenant, quand vous parlez de l'autorisation de la CEDEAO, nulle part. Si vous parlez de l'autorisation de la manifestation dans l'État togolais, je suis d'accord. Mais ce n'est pas la CEDEAO qui va lui donner l'autorisation d'aller parler à ses compatriotes. Il est un député de la CEDEAO. Et donc, c'est vrai que la manifestation n'était pas autorisée, selon ce qu'on a dit, même si on n'a pas l'acte d'interdiction. Mais l'agression sur un individu par des hommes, par des civils, mais c'est le droit, c'est la forme. Hein. Quand la forme est visée, on ne va plus dans le fond. Mais quelle que soit l'interdiction, mais ce n'est pas à ces gens de venir agresser le député. Mais il faut qu'on s'intéresse à ça. Et comprendre la douleur de la DNP aujourd'hui qui crie. Parce que la DNP pense qu'elle n'a pas été protégée par des individus qui sont venus l'agresser. Mais la police pouvait aller doucement interdire la manifestation. La police, la force publique pouvait aller les déloger. Mais on ne parlerait pas de ça ici. Moi, je pense qu'il y a des principes de droit qu'on doit respecter. D'accord. Et là, pour citer, ben, comme j'ai en face de moi affirmé, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui au niveau de la FNDC, il y a des gens qui ont été enlevés en Guinée, dont on n'a plus leur retour, depuis plus de 3 mois. Vous êtes dans le panafricanisme, nous crions le panafricanisme, mais c'est les Blancs qui aident les gens à dénoncer cette pratique jusqu'à ce jour. Moi, je crois que je profite de votre antenne pour demander vraiment à l'État guinéen de libérer ces activistes Fonique et Bilo.
D'accord. Alors, Gabin, oui. Quand on prend ces exigences de la DNP aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que c'est possible, c'est-à-dire une enquête internationale et également la démission de certaines personnalités.
Oh, vous savez, ce sont des enchères politiques. Et en politique, pour obtenir le minimum, il faut demander le maximum. C'est ce que la DNP est en train de faire. C'est tout à fait normal de poser hein, de telles exigences. Maintenant, est-ce que cela pourrait être faisable? Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Parce que, bon, l'eau a déjà coulé sous le pont et je ne pense pas que cette affaire puisse aller loin. Mais c'est quand même une bonne chose de demander hein, quand même la démission pour obtenir peut-être une sanction à ceux-là qui ont attaqué. J'aurais voulu que la DNP exige beaucoup plus qu'on découvre ceux-là qui ont posé un tel acte sur le député Sané, sur Mme Adjamagbo, parce que taper quand même une dame comme Mme Adjamagbo, c'est salir le nom du Togo. Premièrement, je ne veux même pas aborder le cas de Guimaru Sanya, mais lever la main sur Mme Adjamagbo, c'est salir le peuple togolais, parce que nous, Togolais, l'éducation que nous avons reçue, on ne nous a pas appris à taper une femme. On ne nous a pas appris à taper les gens. Ce qu'on nous a appris, c'est que quand il y a un problème, qu'on arrive à discuter autour d'une table, discuter autour d'une table pour trouver solution. Maintenant, par rapport à l'autorisation de la manifestation, nous sommes dans un régime d'information. Et la réunion, ça devait se tenir dans un endroit clôturé. Ça veut dire que c'est une réunion privée.
D'un
parti politique. Donc, un parti politique n'a pas besoin d'autorisation pour pouvoir faire ses activités. Peu importe qui il invite, d'autant plus que Guimaru Sanya, c'est un député de la CEDEAO et il a le mandat aussi de la population togolaise.
Jamais, c'est possible, les exigences alors de la DNP?
Moi, je crois que l'une des personnalités de la DNP à l'Assemblée nationale, aujourd'hui nous sommes dans un régime parlementaire, je crois que les députés ont plus de pouvoir, au lieu d'aller réclamer cela lors d'une conférence de presse, elle aurait pu, en tant que députée, aller poser la question de cette démission-là à l'Assemblée, qui est censée avoir plus de pouvoir aujourd'hui sur le gouvernement. Mais je crois que nous sommes, comme le disait Gabin tout à l'heure, nous sommes en politique. Et il faut... La DNP veut rentabiliser, hein, je le dis comme ça, c'est un peu cynique, mais veut rentabiliser ce triste événement. Et donc, vous avez vu, en tout cas, c'était une commission d'enquête internationale, maintenant, c'est la démission des ministres, tout ça. Et puis, vous savez que ce regroupement a subi quand même des critiques, on disait, mais pourquoi vous êtes si incapable de mobiliser vos militants, vous êtes obligé de faire recours à un député de la CEDEAO pour lancer des affiches sur les réseaux sociaux, inviter vos militants à venir massivement pour écouter ce député-là. Et là, quand Gabin dit que c'est une réunion privée, que ça n'a pas besoin de... Non, je dis non. Cette loi, elle est assez claire. Quand vous invitez les gens de venir massivement, ce n'est pas une réunion privée, hein, je ne crois pas. Donc,
Non, mais il parlait plutôt d'un endroit, c'est-à-dire le cadre à l'heure de la rencontre. C'est un endroit clos. Et c'est de ça qu'il s'agit.
C'était la raison pour laquelle le ministère de l'administration territoriale n'était même pas intervenu pour pas acteur.
Quand on dit...
On va revenir sur le sujet.
C'est même pas nécessaire d'informer le ministère si on pense que c'est juste un régime d'information. Non. On peut interdire. Donc, le ministre a envoyé quand même un courrier qui est arrivé à la CEDEAO. On a dit aux députés de ne pas y aller.
Mais pas aux organisateurs.
Il faut revenir, non? Non, il faut... Est-ce que vous savez qu'il y a eu aussi un changement de lieu? Vous le savez?
Oui, mais je sais.
Voilà, maintenant, quand vous voulez qu'on vous sécurise, quand j'ai entendu les gens dire qu'on n'a pas sécurisé la DMP, mais quand l'activité n'est pas autorisée, pourquoi?
Mais ça n'a pas été signifié aux organisateurs que c'est interdit.
Mais ça a été signifié à l'invité de la CEDEAO.
Ah, d'accord. Alors, on va quitter le sujet. On va quitter le sujet maintenant. Je pense que notre heure est avancée. Jamais, vous nous excusez, notre heure est avancée. On va revenir sur le sujet. Je pense que nos auditeurs s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour intervenir alors sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après.
Le plaisir pour la guérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur qui se signale. Allô?
Allô, bonjour monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, merci bien.
Votre nom c'est?
Dodi Dodarabi.
Pardon?
Dodi Dodarabi.
Ah, c'est monsieur Dodi Dodarabi. Allez-y.
Bonjour, merci. Tout là, je crois que vous faites pour la nation. Et je remercie aussi vos invités, Banque de la scientifique. Et tous nous sommes d'être de l'air, et nous savons dans le pays dans lequel nous vivons. Est-ce que le DMP ne veut pas travailler, et il n'a pas dit invité, ça y a devenu travailler à sa place. Pourquoi on ne dit pas la vérité au TV? Toutes les meetings, tout mouvement politique est interdit par le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il faut qu'on dise la vérité là. Hein? Nous qui sommes ici là, on veut manifester. Par ce qui nous arrive, on arrive à manger. Nous sommes enfermés dans le pays. Qui sort, on t'arrête, qui va en prison. Maintenant, vous accusez, on accuse les partis politiques. Ce sont ceux qui vont venir travailler à la place de nous, la population. Oh, c'est pas ça. Sorry. Il faut qu'on change nos mentalités. Merci.
D'accord, merci Monsieur Dodi de nous avoir appelé 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagissez sur des sujets. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour,
comment vous allez?
Ah, ça va bien.
Votre nom c'est?
Eric depuis quand je peux.
Eric?
Héritier
depuis quand j'ai payé, allez-y.
Ok, nous vous remercions pour les efforts que vous faites pour que nous, la population, puisse vous écouter.
Merci.
Ok, c'est une question à la part de M. Sirimain, qui parlait de. C'est au sujet de M. Guy Sagnan, le député sénégalais. Mais M. Sirimain nous donne l'impression comme si, bon. Dans notre pays ici, lorsqu'il y a un sujet tel qu'il vient de l'exposer, la justice n'existe pas et que c'est les milices qui peuvent intervenir et régler le problème au monsieur le député. J'aimerais savoir le même firmé dans certains sujets quand il s'agissait de brûler les voleurs qui volent nos motos, qu'on les brûle, ils interviennent pour nous dire que nous n'avons le droit de se faire justice. La justice est là pour régler. Si Guy Sagnan se retrouve en contravention avec la loi de la République, la justice est là pour l'interpeller. Pourquoi c'est l'intervention d'un ministre au sein du siège d'un parti politique pour faire justice à Guy Sagnan alors que la justice est là, la police est là.
D'accord, merci, merci beaucoup, héritier, de nous avoir appelé et d'avoir intervenu aussi dans ce débat. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Votre avis aussi nous compte, hein, nous importe, je l'ai dit, et, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa bonjour. Sardiné.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Allez-y.
Vraiment, notre frère, je mets la... pas qu'il nous fasse un comme ça. Hein? Donc, si quelqu'un n'a pas demandé permission, on ne l'a pas. Donc, il faut le tuer, quoi. C'est ce qu'il voulait nous dire. Soyons honnêtes quand même. Hein. Donc, les forces de sécurité sont là. On dit que c'est pour votre protection. Donc, quand il s'agit d'amener la ministre, donc il faut pas tuer. Les forces de sécurité ne vont rien dire. Bonne journée.
Allez, bonne journée à vous aussi, Papa Sardiné. Et merci pour votre intervention. 90 86 35 35.
Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bien.
C'est Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
D'accord, allez-y.
Je voudrais demander à votre confrère, Monsieur Firmin, lorsque Alpha Condé avait reçu les chefs de partis politiques dans sa suite, lorsqu'il était à l'hôtel lors des manifestations-là. C'était privé ou officiel. Ça fait un. Et aussi, savoir si les milices peuvent agir à la place de la police. Aussi, savoir l'assistance à la personne en danger. Est-ce qu'il connaît cela? Sinon, finalement, je pense que le président de l'Assemblée nationale a vraiment raison de vouloir leur donner une formation. Merci.
90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment vous allez?
Très bien. Je vais intervenir par rapport à l'attaque de Jean Tania.
Oui, votre nom, c'est?
C'est monsieur Nick.
Monsieur Nick, allez-y.
Oui, bon, je voudrais rappeler à Germain et Fournier, pas plus longtemps au niveau des États-Unis, Donald Trump était attaqué. Mais quand on a vu que la situation s'est passée mal, le premier responsable a démissionné. Mais si on demande que le ministre et que bon, les hauts démissionnent, ce n'est pas encore trop demandé. Dans un état normal, il doit démissionner. Parce que vraiment, on pouvait le tuer. Et ça va devenir une affaire diplomatique. Et c'est ce qu'il souhaite. Bonne journée.
Allez, bonne journée à vous aussi. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour. Comment vous allez?
Basile.
Ah, Basile.
Oui.
Oui, mais il semble qu'il y a votre radio à côté de vous qui fait un peu de bruit. S'il vous plaît, diminuez son
volume. Je suis en train de m'appeler.
D'accord, allez-y.
Oui, ça fait bien.
Oui, allez-y.
Bon, je salue vous-même, le plateau et tout le personnel de Canal FM.
Merci beaucoup.
Oui, oui. Bon. Dans l'attaque de Guy Marie Tania, qu'il y a une enquête qui est annoncée.
Mais justement, il y a la police, enfin, il y a une enquête qui a été annoncée.
Non, 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 non. Pourquoi ça? Il suffit de prendre M. Abbas Kaboa, et il y a un énergumène de Congo, Brazzaville, docteur Ruffin.
Monsieur Basile.
Oui, allô?
Soyons courtois. Nous parlons sur une radio de grande écoute. Soyons courtois.
Oui, d'accord. D'accord, je retire l'énergumène. Docteur Ruffin. Monsieur Teko Ago. Et puis l'enquête, ils disent que c'est parce que ce député est venu hors la loi que ça s'est passé. Donc ça veut dire qu'eux, ils connaissent ceux qui ont fait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait une enquête? Enfin, je ne comprends pas. Eux, ils disent que c'est parce que Guy Marie Tania là a enfreint à la loi. C'est pourquoi on l'a adressé. Quand on a frais à la loi ici, c'est une agression. Mais pourquoi est-ce qu'on fait une agression? Mais eux, on les prend, ils vont nous montrer ceux qui ont fait ça. Et puis, ça, c'était eux. Pourquoi est-ce qu'on se gêne ici au Togo? Merci à vous.
Merci, Basile. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce vendredi. Chers confrères, et nous allons revenir en studio, faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Ricardo, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité comme nous l'avons, ou telle que nous l'avons débattu ici au Club de la Presse. Mais je ne sais pas si vous avez bien fait le constat. Vous allez voir quand même que nous avons pris beaucoup de temps hein, pour parler de cet effondrement à l'heure de cet immeuble. Nous avons parlé également du trafic à l'heure du sang et des sujets qui touchent même d'ailleurs le quotidien du Togolais. Mais ceux qui ont appelé, pratiquement personne n'a eu à intervenir même d'ailleurs sur ces sujets. On s'est plus intéressé à la politique.
Oui, c'est toujours comme ça. Et puis, cette situation telle que vous venez de le constater, ben, il faut interpeller les psychologues, les sociologues pour faire une étude et comprendre. Vous voyez, tout ce qui est politique, c'est ça qui intéresse les Togolais. C'est quoi? C'est parce que nous sommes dans un pouvoir où tout le monde dit qu'il est fatigué. Je l'ai dit une fois ici, l'usure du pouvoir fait que tout ce que vous faites, les gens ne regardent plus. Donc, excusez-moi, ça veut dire que tout ce que nous avons dit sur le social, la vie des gens, un immeuble, on a parlé du sang, ça ne les intéresse pas parce que pour eux, leur sort est dans les mains du politique. Je pense que c'est ça. Et les gouvernants doivent le comprendre. Moi, je vais rapidement retourner sur la question de la santé pour interpeller une fois encore le personnel de la santé. Et j'ai parlé ici de la responsabilité médicale. Peut-être que les gens ne le savent pas, du côté du personnel soignant, comme de la population, si vous me permettez de lire deux articles pour que les gens comprennent ce qui les attend quand on faute ou bien quand on violente un patient. L'article 195 du Code de la santé, tout acte d'un patient qui entraîne des conséquences dommageables pour un patient, engage la responsabilité civile de son auteur envers le patient devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. L'article 593. Toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité d'un établissement de santé peut exercer contre le dit établissement tout recours autorisé par la législation en vigueur. Donc, les gens doivent comprendre que ces pratiques, cette corruption totale dans le secteur de la santé doit prendre fin. Et nous allons agir.
D'accord. Vous allez agir. Gabin?
Oui, c'est quand même un peu déplorable, hein, parce qu'on a eu à discuter des sujets qui touchent même la vie des Togolais. Mais bon, personne n'a intervenu par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui n'a même pas fait 5 minutes. c'est sur ce sujet-là que beaucoup de personnes ont eu à intervenir. À un moment donné, il va falloir que nous, Togolais, comprennent que c'est dans la diversité hein, qu'il y a beaucoup plus de richesses et que les attaques envers Firmer, par exemple, et tout, les mots qui véritablement ne sont pas du tout courtois, c'est la manière de voir, de Firmer. C'est pour cela qu'on dit d'ailleurs débat. C'est pour cela qu'on dit débat. Il va falloir qu'on accepte les points de vue des autres et puis qu'on apporte
surtout un débat citoyen.
Un débat citoyen. Et même si on veut reprocher quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il faut le faire dans la courtoisie, dans le respect, pour qu'on puisse arriver à construire le pays. Et j'aimerais finir quand même par pas envoyer hein, mes pensées les plus positives aux sinistrés des dernières pluies et aussi aux victimes de l'effondrement de cet immeuble-là et souhaiter un joyeux anniversaire à un ami. C'est l'homme qui nous suit depuis à Gbalepédo.
D'accord, merci. Germain?
Oui, vraiment, je voudrais féliciter Canal FM et le Club de la Presse parce que aujourd'hui, il y a des sujets importants qu'on a eu à aborder qui ne sont pas forcément politiques. Et c'est pas, si les populations préfèrent la politique, c'est parce que nous les avons habitués à la politique. Et aujourd'hui, il est temps qu'on passe à d'autres questions qui sont importantes, qui impactent directement la vie des citoyens. On parle aussi des questions de développement. Et à l'occasion donc de ce mois du consommateur local, je nous invite tous hein, à nous approprier un peu ce mois-là, juste pour nous rappeler qu'il y a une production locale de qualité. Il y a des femmes et des hommes qui produisent dans plusieurs domaines, dans l'artisanat, dans l'agroalimentaire, dans l'industriel et tout cela. Et que si on veut que la richesse reste chez nous, il faut qu'on fasse l'effort d'être patriote
envers
nos produits, de consommer pour que l'argent reste. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc, nous faisons de l'argent à l'extérieur. Comment sans pas penser
merci
à
beaucoup,
faire
Germain.
En sorte que l'argent reste un peu au pays.
Merci, Germain. Fumez une minute.
Non, moi, je voudrais juste dire merci à tous ceux-là qui y sont intervenus. Merci parce que c'est le débat, c'est la démocratie. Merci, je dis un grand merci parce qu'ils voient les choses différemment que moi. Et ils ne sont pas allés dans le même sens que moi. Alors moi, je ne peux que féliciter la démocratie. Bravo. Ouais.
D'accord. Merci beaucoup, Firmin, d'être passé alors dans cette émission. Et merci à Ricardo, à Gouzo, alors d'avoir participé, mais aussi à cette émission. Je rappelle tout simplement que vous êtes le président de OPS Afrique, OPS Afrique qui est observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir participé aussi à cette émission. Et Gabin Adjaro, merci d'être passé aussi dans cette émission. Je sais que vous aurez maintenant l'occasion nécessaire alors de participer à cette émission avec nous. Dès que le besoin se fera sentir, nous ferons toujours appel pour participer à ce débat avec nous. Vous êtes le directeur de juriste et consulting, c'est ça, et votre cabinet. Merci d'être passé. Jamais Pouli, merci d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur du journal Togo Réveil. Merci d'être passé. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Merci à vous parce que vous avez participé à ce débat et aussi vous avez contribué à ces réflexions ou à ce débat avec vos réflexions. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutia. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Passez un bon week-end. Au revoir.